Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de la vieille Europe dirigé par Patrick PL, assisté de Pascal Esseric, diffusé en direct mardi 15 septembre 2015 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé jeudi 17 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Pour m'accompagner ce soir, Pascal Esseric, rédacteur en chef d'Éléments. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Patrick.
Alors nous sommes heureux, chers auditeurs, de vous retrouver pour une nouvelle année sur Radio Courtoisie après ces vacances. Une rentrée qui malheureusement a mal commencé avec la disparition de notre ami Emmanuel Ratier, que nous avions reçu dans cette émission des Chroniques de la Vieille Europe et qui, avec le fil du temps, grâce à ses conseils, son talent de journaliste indépendant et sa gentillesse parce qu'il était toujours prêt à donner un coup de main, à avoir le conseil de sa valeur professionnelle de journaliste. Emmanuel Ratier était devenu un ami. Alors toute l'équipe, je sais que la radio en a beaucoup parlé, donc toute l'équipe de la Vieille Europe s'associe à la douleur de son épouse et de ses trois filles. Au revoir Emmanuel, tu vas nous manquer. Pour commencer cette année, nous allons bien sûr continuer ce combat d'information. Et pour commencer cette année, nous allons faire de la prospection à travers un livre remarquable, 2030, le monde que la CIA n'imagine pas. Alors, livre écrit par deux universitaires, Thomas Flichy de la Neuville et Grégor Mathias. Et nous avons le plaisir d'avoir l'un des auteurs par téléphone. Bonsoir Thomas Flichy de la Neuville, vous me recevez ?
Je vous reçois très bien.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors comme je l'expliquais à nos auditeurs, vous venez de sortir un livre de prospective géopolitique avec Grégor Mathias. Mais l'originalité de votre livre, c'est que c'est un parallèle avec un rapport de la CIA, un rapport nous expliquant notre avenir en 2030. Alors comment avez-vous procédé pour construire votre livre et peut-être nous expliquer ce qu'est le Global Trend 2030 de la CIA ?
Alors, toutes les 10 ans, la CIA publie une étude de prospective. Elle le fait à partir d'un pool de chercheurs importants et essaye de dégager des tendances pour la décennie à venir. Il y avait eu déjà un rapport de la CIA, naturellement, pour 2015, qui nous expliquait, par exemple, que la Russie se trouverait dans une situation économique catastrophique, une sorte d'effondrement, et que l'économie se porterait à l'inverse au mieux. Bref, les faits ont largement démenti les prédictions de la CIA. Nous avons pris une démarche différente. D'abord, nous avons travaillé avec une petite équipe au lieu d'une grosse équipe qui finit par brouiller finalement le message de la prospective, donc en petite équipe, et nous avons choisi de proposer un scénario à l'inverse de la pluralité de scénarios que propose la CIA, mais que proposent également d'autres services de renseignement, et qui est une façon un petit peu de se défausser. Je crois qu'il faut aujourd'hui accepter de prendre les risques d'une analyse qui peut s'avérer défectueuse ou fausse.
Parce que il y avait des pépites dans votre livre, vous les mettez. En 2015, on ne voit quasiment rien sur la montée de l'islam. Et grosso modo, Israël, en 2015, vivrait en paix avec ses voisins et avec la renaissance d'un État palestinien. Et le plus marrant, c'est que les erreurs sur 2015 n'affectent pas l'arrivée de celui de 2030. On le vend un peu comme une bible d'experts.
Effectivement. En fait, le facteur religieux est passé sous silence par la prospective américaine, mais en réalité, les prospectivistes américains voient le monde essentiellement à travers le prisme des indicateurs économiques et passent deux dimensions essentielles sous silence. Il s'agit d'abord de l'importance des cultures et finalement du renouveau des cultures que nous pouvons constater un petit peu partout dans le monde aujourd'hui. Et puis le deuxième facteur qui est passé sous silence, c'est la volonté de puissance des États. Et ne prenant pas en compte ces deux facteurs, eh bien, l'on arrive à des analyses qui sont largement vides.
Il y a quand même, vous dites qu'il y a une différence entre les deux rapports 2015 et 2030, c'est qu'il n'y a plus vraiment de géopolitique dans celui de 2030.
Non, en fait, il s'agit plutôt d'une analyse économique où les facteurs géopolitiques ont été gommés et surtout les facteurs, l'analyse culturelle est passée sous silence. C'est-à-dire que l'analyse religieuse, l'analyse culturelle des phénomènes, eh bien, elle est oubliée, comme si elle n'existait pas et comme si les cultures ne comptaient pour rien. Alors c'est un défaut finalement occidental de penser que les cultures ne comptent pour rien, que les hommes sont interchangeables, mais on sait bien que pour d'autres cultures dans le monde, la culture précisément, c'est parfois une affaire de vie et de mort.
Alors une question de Pascal Essérick.
Oui, dans votre précédent livre, qui s'appelait « Géoculture, plaidoyer pour des civilisations durables », vous introduisiez ce concept de géoculture et qui manque aujourd'hui à la prospective, notamment américaine, mais occidentale.
Effectivement,
est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concept de géoculture ?
Eh bien, ce concept de géoculture est en fait une méthode que nous avons élaborée pour nos propres élèves officiers à Saint-Cyr, pour leur permettre de penser le monde tel qu'il est et non tel qu'on se le figure dans les médias. La géoculture, c'est tout simplement essayer de sonder le monde et les civilisations à travers leur capacité à transmettre la vie, qu'il s'agisse de la vie biologique, de la vie culturelle, de la vie économique, de la vie politique. Et la géoculture consiste à reprendre en compte le facteur politique et le facteur culturel aux côtés du facteur économique afin de retrouver finalement une intelligence du monde.
Parce que la négation de ce facteur culturel a débouché sur des échecs assez spectaculaires ces deux dernières décennies. On a pu le voir sur des théâtres même d'opérations, hein, Afghanistan, Libye, Syrie et Irak.
Effectivement, en fait, la négation du facteur culturel, elle débouche sur des échecs discrets pour les entreprises qui perdent des marchés parce que leur cadre reste trop peu de temps sur un poste, alors que souvent il faut s'investir sur plus que 2 ou 3 ans. Donc elles perdent des marchés des entreprises, mais ça reste relativement transparent. En revanche, lorsque les choses deviennent un peu plus sérieuses, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de faire la guerre, évidemment, la culture, ça compte, et l'armée américaine a pu se rendre compte, puisque la catégorie de soldats la plus ciblée en Irak a été les interprètes, qui étaient finalement des passeurs de langue et passeurs de culture. Les snipers irakiens ciblaient le chef de section plus l'interprète. Cela montre bien que la culture, eh bien, ça compte.
Alors, autre surprise dans ces analyses de la CIA, c'est pour eux, c'est la disparition du terrorisme islamique, qui ne restera plus qu'une poche dangereuse, c'est les chiites. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'ils parlent d'un terrorisme chrétien. Comment ils en sont arrivés à ce genre de conclusion ?
Effectivement, il y a une vision totalement biaisée sur l'émergence sur l'analyse de l'islamisme qui est perçue uniquement comme le résultat d'une frustration économique et sociale. C'est-à-dire que les États-Unis ou les analystes américains ne prennent pas en compte les causes proprement religieuses et culturelles qui expliquent le renouveau, ce renouveau religieux. Et en viennent à la conclusion que l'islamisme va disparaître un petit peu comme avait disparu l'anarchisme, ou en tout cas l'anarchisme violent de la fin du 19e siècle. Effectivement, ils font un parallèle douteux avec un terrorisme chrétien qu'on cherche toujours dans le monde aujourd'hui.
Premièrement, vous expliquez que la France, dans ce rapport, est quasiment inexistante dans ce rapport américain. Elle n'existe quasiment plus.
Effectivement, pour la CIA aujourd'hui, la France est inaudible. Ils ont du mal à la situer d'ailleurs sur une carte. Et le mot de France, nous avons fait la recherche, apparaît qu'à de rares endroits. En fait, les Américains se réfèrent à la France uniquement à travers un parallèle historique. Pour se référer, finalement, il s'intéresse à la France du début du 19e siècle, à celle de l'Empire et à ses relations avec les puissances autocratiques européennes, avec la Russie, avec l'Autriche-Hongrie, qui sont assimilées finalement aux puissances non démocratiques d'aujourd'hui, comme la Chine ou la Russie.
Alors, par contre, en lisant votre analyse dans votre livre, parfois, on n'est pas loin de soumission de Michel Houellebecq sur l'aspect politique, parce que pour vous, il y a quand même dans l'avenir un risque d'un effondrement des partis traditionnels et de la montée d'un parti musulman et d'un parti de France. Comment vous avez, analysé ceci ?
Alors, ces analyses de politique interne, nous les appuyons sur des analyses que nous faisons à Saint-Cyr au sein de notre laboratoire Synopsis, qui s'appuie sur des politistes. Et l'on voit bien aujourd'hui que nous allons connaître une recomposition de la vie politique, une recomposition des partis et également une recomposition des élites. Vraisemblablement émergeront effectivement des partis religieux, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Est-ce à dire qu'à Saint-Cyr, on étudie Soumission de Houellebecq ?
Non. On peut lire des ouvrages variés, mais ce n'est pas un livre au programme pour l'instant.
Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour vous, la France va devenir une sorte d'État crypto-fédéral.
En fait, la France ne sera pas capable, d'un point de vue économique, si elle ne s'attaque pas au grave problème économique de la dette, elle ne sera pas capable de maintenir le reste de souveraineté qui demeure aujourd'hui. Et donc, elle sera forcément, encore plus qu'aujourd'hui, sous une tutelle financière qui la ligotera. Donc, faute de réforme, nous allons aller vers le chaos.
Comment vous articulez ça avec l'aspiration des Français à une centralisation et un jacobinisme? C'est le moment du livre où j'ai eu un peu de difficulté, parce que sur la question du fédéralisme et sur la question de la centralisation, parce que les Français sont même très attachés à la centralisation, à une certaine forme de centralisation.
Effectivement, les Français sont très attachés à la centralisation, mais dans des temps à venir qui seront des temps de troubles, il est probable que les Français se replient sur des structures de sécurité à l'échelle locale. Et par conséquent, il sera difficile pour eux de rester à raccrocher à Paris, alors même qu'il faudra se protéger, se sécuriser chez eux, dans leur village, dans leur canton. Et par conséquent, il est possible qu'on évolue vers plus d'autonomie locale. Souvenons-nous de l'Empire romain au IIIe siècle, lors de la grande crise du IIIe siècle, dans lequel les régions qui étaient soumises le plus fortement aux migrations et aux troubles militaires, qui étaient en Orient la Syrie et en Occident la Gaule, et bien dans ces régions avaient émergé des royaumes indépendants de Rome, qui se revendiquaient de Rome, mais frappaient une monnaie indépendante. C'est ce qui pourrait nous arriver dans les décennies à venir.
Alors, il y a aussi, et vous l'abordez, la question européenne. J'aimerais bien que vous nous expliquiez à la fois la vision américaine de l'Europe et finalement vous, votre vision. Parce que il faut dire aux auditeurs que vous prenez des risques aussi. C'est-à-dire que quand je dis vous prenez des risques, vous avez un parti pris.
Oui, c'est bien le propre de cet ouvrage, où nous avons voulu en quelque sorte épuiser notre imagination et proposer un scénario. Alors oui, nous prenons des risques pour une prospective à l'horizon 2030, mais si nous ne le faisons pas, qui le fera ? Et il faut rendre le futur audible, au risque de provoquer la contradiction, et même nous souhaitons cette contradiction. Alors, vous m'interrogiez sur la question. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur la question précédente,
peut-être ? De l'Europe.
Sur la question de l'Europe.
Oui.
Question de la France dans l'Europe.
Alors, pour notre vision de l'Europe, c'est très simple. L'Europe d'aujourd'hui ressemble à la Confédération du Rhin qui a été mise en place par Napoléon Ier afin d'avoir la main sur les petits États allemands en leur donnant une souveraineté virtuelle et en les ponctionnant de leurs armées qui leur donnaient des quotas de soldats pour pour ses campagnes militaires. Eh bien, la combinaison Union européenne-OTAN ressemble très très fortement à cette Confédération du Rhin qui donnait finalement une souveraineté illusoire aux petits princes allemands tout en les dépouillant de leurs forces militaires. Voilà un petit peu notre vision une comparaison en tout cas qui est possible.
Parce que les Américains, la CIA, ils expédient aussi assez rapidement l'Europe.
Oui, ils l'expédient assez rapidement. On voit bien que pour eux, ça ne sera guère une puissance à l'horizon, dans les 15 ans à venir. Et évidemment, ils ont raison, puisqu'ils en tirent certains fils.
Le nouveau leader de l'Europe est l'Allemagne. Le rapport est très alarmant avec une. Enfin, de mémoire, c'est dans le rapport de la CIA. Les Américains pensent qu'il va y avoir une montée de la violence, des émeutes urbaines au niveau de l'Allemagne. Alors c'est assez marrant parce que ça amène à la situation et à l'actualité d'aujourd'hui.
L'Allemagne va rester un petit peu comme un paquebot sur son aire qui a été lancé avec son dynamisme économique depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Donc elle va rester lancée et va être quand même un moteur économique encore pour la décennie à venir, mais elle va connaître de tels problèmes démographiques et de tels problèmes migratoires qu'effectivement elle va connaître avant nous, de façon avancée, de façon prémonitoire, en avance. Elle va pouvoir nous donner une image de ce que nous pourrions vivre un petit peu plus tard.
Pascal et Céric.
Alors, je voudrais revenir sur votre façon de travailler. Parce que, à vous entendre, on pourrait croire que votre livre, le livre que vous avez écrit avec Grégoire Mathias, est le fruit de discussions et rien de plus. Je voudrais savoir comment vous travaillez au sein de votre équipe, comment vous arrivez à établir des consensus sur vos scénarios. Comment ça se passe? Vous avez parlé du groupe Synopsis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Effectivement, c'est un groupe qui rassemble des historiens, des juristes, des économistes, des militaires, donc un groupe qui est à la fois très varié et pluridisciplinaire et dans lequel qui produit depuis 4 ans des ouvrages de géopolitique, des notes.
C'est assez nouveau en France.
Qui est assez nouveau et en fait qui a pour particularité de produire en réactivité. Et donc c'est une petite équipe de gens qui travaillent ensemble et qui acceptent de confronter leurs analyses et puis quelquefois de renoncer à un point au profit d'une autre analyse. Donc voilà, c'est un véritable travail en commun qui peut finalement se faire bien qu'à petite échelle. Donc oui, c'est une petite équipe, mais qui est parmi les plus réactives, parce que l'on voit aujourd'hui que les grands think tanks sont incapables de produire de l'analyse militaire, en tout cas au moment où un conflit éclate, et par conséquent, ils produisent généralement leurs livres quand la guerre est finie.
Mmh. C'est au sein du centre Roland Mounier de l'université, de la Sorbonne, de
alors
Paris 4.
C'est un groupe qui est à la fois à Saint-Cyr et à Paris 4 Sorbonne et qui fédère des chercheurs qui viennent également d'universités différentes, mais qui travaillent en commun pour une analyse en réactivité, mais une analyse politique et culturelle afin de donner finalement du recul. Sur les événements actuels et afin d'éclairer un petit peu les élites lettrées et les professions finalement les cadres intermédiaires.
Parce que je vous posais ces questions de méthodologie parce que je trouve que le chapitre concernant la Chine est peut-être celui qui est le plus étonnant. Est-ce que vous voulez bien nous en parler?
Alors pour la Chine, nous avons choisi de donner la parole à un diplomate chinois qui s'appelle Wang Yi, qui est actuellement en poste en ambassade et donc nous n'avons pas censuré ce qu'il nous a dit, il nous a proposé une vision chinoise du monde en 2030. Donc c'est un discours savamment composé et nous avons à la suite de ce discours émis une critique du discours chinois. Donc effectivement, c'est un chapitre étonnant qui mêle une vision chinoise et une critique française de ce même discours.
En même temps, on s'aperçoit qu'en vous lisant, la Chine va devenir l'ennemi numéro un des États-Unis. Comment la CIA met en perspective cette période ? En 2030, on considère que la première puissance sera la Chine, mais les Américains ont un scénario pour arrêter cette progression.
Effectivement, on peut dire qu'encore une fois, la CIA se trompe en désignant la Chine comme l'adversaire principal des États-Unis à l'horizon 2030. En effet, si la Chine connaît une progression économique importante, si les Américains ont tout fait pour éviter, au cours de la décennie précédente, la connexion entre l'usine chinoise et les grands réservoirs d'hydrocarbures de la mer Caspienne et du Golfe Persique, que ce soit par la voie de mer en confinant leur marine ou bien par la voie terrestre en tâchant d'éviter à tout prix cette connexion par pipeline via l'Afghanistan, via le Pakistan ou d'autres pays, les Américains se trompent parce que la Chine, qui est effectivement actuellement puissante, va connaître des signes de faiblesse. Nous l'écrivions avant la récession économique qu'a connue la Chine dans les derniers mois. Et puis la Chine va connaître aussi d'énormes problèmes démographiques qui fait qu'elle ne pourra pas coloniser l'Afrique comme certains le prétendent aujourd'hui. En revanche, sa rivale indienne risque de devenir une grande puissante. Et cela, les États-Unis l'ont tout à fait oublié.
Oui, on reviendra peut-être sur l'Inde, mais on va peut-être faire l'Afrique, parce que c'est assez croustillant, parce qu'il y a vous expliquez dans le rapport de la CIA, il y a un nombre de généralités et de banalités proches, qui est pas loin d'une conversation de bistrot. Je vais en citer une dans votre livre, c'est « La productivité de l'agriculture africaine devra augmenter considérablement si l'on veut éviter une carence en produits alimentaires ». C'est quoi ? C'est un devoir de terminal à ce niveau-là ?
La partie consacrée à l'Afrique est la partie la plus faible du rapport de la CIA. Effectivement, les Américains comprennent mal l'Afrique et d'ailleurs sont souvent mal reçus en Afrique. Aujourd'hui, ils se sont désengagés de l'Afrique de l'Ouest, ils se sont désengagés d'Angola, un pays dans lequel ils avaient été présents pendant 20 ans, puisqu'ils n'ont plus besoin des hydrocarbures africaines, et il est probable que les Américains y comprennent encore moins dans quelques années. Bref, l'analyse est très faible, et nous avons voulu, pour ce continent, proposer un tableau en plusieurs couleurs de ce que pourrait être le continent noir.
Oui, parce que l'Afrique n'est pas un continent abandonné. J'allais faire hors de l'histoire, en tout cas.
Alors, il n'est pas abandonné. Il est pillé par certaines puissances, notamment des puissances qui s'intéressent à ses richesses agricoles. 80% du foncier agricole africain est aujourd'hui inexploité. Donc, les plantations et les terres qui ont été achetées par des pays comme l'Arabie Saoudite, par la Corée du Sud, par les Émirats Arabes Unis, ces terres, ces plantations se sont multipliées en 2030. Elles ont été sécurisées, les meilleures terres ont été prises et ces plantations ont été connectées par des routes spécifiques à des ports africains et de nouvelles lignes maritimes sont nées entre les pays qui ont colonisé de façon agricole l'Afrique et cette Afrique.
Vous êtes sur Radio Courtoisie, nous recevons actuellement Thomas Flichy de La Neuville pour son livre 2030, le monde que la CIA n'imagine pas. Sur cette Afrique, on peut dire que l'Afrique s'est débarrassée de la colonisation européenne, mais effectivement pas de la colonisation, et même d'autres acteurs sont arrivés. Et on a pu voir, il n'y a pas si longtemps, un très beau reportage sur ce grand train que Bolloré est en train de mettre en place. Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas un leader en Afrique, et même l'Afrique du Sud, par exemple, n'est pas arrivée, je veux dire, à faire que ce continent devienne un minimum indépendant vis-à-vis du reste du monde ?
Eh bien, il y a 20 ans, effectivement, l'Afrique du Sud était l'espoir de l'Afrique, puisque c'était un géant économique qui avait des velléités même de faire régner, de sécuriser l'ensemble de l'Afrique australe. Nous avons bien vu que l'effondrement du régime sud-africain, du régime de l'apartheid qui a été voulu et planifié par les États-Unis, n'a pas débouché malgré les grands espoirs qui avaient été placés sur un système viable. Et l'Afrique du Sud est aujourd'hui en pleine décomposition. Elle conserve une certaine richesse, elle conserve une armée relativement puissante, mais il est probable que ces élites ayant fui, elle se sera davantage effondrée encore en 2030. Donc l'Afrique du Sud ne sera pas le géant de l'Afrique en 2030.
On va peut-être parler de l'Inde, qui est un pays en règle générale qu'on parle peu en France. Vous considérez que c'est le futur grand acteur ?
Effectivement, l'Inde a deux avantages sur la Chine. D'abord, l'Inde a un avantage démographique considérable. Il suffit de se regarder sa courbe de population pour voir que l'Inde voit loin devant elle. D'ailleurs, pour revenir à la question de méthode que vous posiez tout à l'heure, notre méthode, eh bien, elle a conjugué à la fois des signaux faibles que nous pouvons voir aujourd'hui en Inde, mais aussi des permanences millénaires. En fait, pour évaluer 2030, nous avons tâché de sonder la capacité des civilisations, des États, à transmettre la vie à cet horizon de 15 ans. Et on voit bien qu'ici, pour l'Inde, eh bien, ce sera le cas. L'Inde va pouvoir transmettre la vie biologique et la vie économique. Donc ce sera sans doute un géant, et avec un pays qui se sera débarrassé de l'héritage pseudo-démocratique britannique et qui se sera renforcé autour du slogan de l'Inde aux hindous. Par conséquent, les minorités non-hindous seront peut-être encore davantage persécutée qu'aujourd'hui. L'Inde va connaître un renouveau identitaire. Donc elle a un atout démographique, elle a aussi un deuxième atout sur la Chine. Elle n'a pas décapité ses élites, elle n'a pas connu de révolution culturelle, et nous savons bien que la décapitation des élites, nous sommes bien payés pour le savoir en France, se traduit par une véritable régression civilisationnelle. C'est ce que la France a pu connaître au XIXe siècle.
Alors,
oui, pour rebondir sur votre analyse, vous êtes très attaché à l'atout démographique. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que recouvre ce que recouvre en fait le terme d'indice géoculturel ? Parce que il fait écho, me semble-t-il, à cette grille d'analyse que vous avez mis en place. À propos de l'Inde. Allô ?
Oui, je vous écoute.
C'est-à-dire que j'aurais aimé que vous nous parliez de l'indice géoculturel, parce que dans l'indice géoculturel, la partie de, enfin, l'atout démographique est très important, me semble-t-il, et ce qui correspond dans le livre, on le voit. Au fait que l'Inde, que l'Inde a, selon vous, beaucoup, de l'avenir.
Alors, effectivement, l'indice géoculturel de vitalité, c'est certainement la clé qui nous a permis de faire de la prospective et qui a nécessité des travaux très importants qui sont étalés sur plusieurs années au sein du laboratoire Synopsis. Et nous avons donc dû échanger avec des laboratoires étrangers avec lesquels nous sommes en relation aux États-Unis, en Russie, en Chine, en Inde. Et nous avons conçu un indicateur afin de pouvoir faire de la prospective. Alors, l'indice géoculturel de vitalité tente de mesurer la capacité des civilisations à transmettre la vie sur la longue durée. Et cet indice prend en compte 5 critères. Il s'agit tout d'abord de l'indice de fécondité, avec le taux de suicide. Ensuite, donc pour la transmission de la vie biologique. Ensuite, il y a l'ancienneté de la sédentarisation et de la construction étatique. Des vieux États se perpétuent plus facilement que des États plus récents. C'est le cas de l'Iran ou de la France. Ensuite, nous avons analysé la richesse du lexique et de la production artistique. Donc nous avons voulu sonder la capacité poétique et linguistique des civilisations. Autre critère, l'imprégnation des réflexes religieux. Et puis, d'un point de vue économique, le taux d'endettement conjugué à la salubrité de la situation économique. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces cinq critères qui nous a permis, qui nous a donné finalement l'aune afin de déterminer ce que seraient les nations dans une décennie ou deux.
Et c'est ce qui vous permet finalement d'entrevoir, enfin de faire une prospective positive sur l'Inde, alors même que vous, si on prend le cas des États-Unis, pour vous, ce n'est pas une nation géoculturelle.
Effectivement, nous opposons des nations géoculturelles qui, finalement, qui puisent dans leur propre culture les raisons de se perpétuer. C'est le cas de l'Inde, c'est aussi le cas de la Chine. Nous les opposons à ce que nous appelons des constructions techno-abstraites, c'est-à-dire des états artificiels qui tentent de compenser l'artificialité de leurs origines par le vide ou par l'oubli. Alors des constructions techno-abstraites, nous en avons en Occident, c'est par exemple l'empire de Charles Quint, qui est un empire artificiel, c'est aussi l'empire de Napoléon Ier, ou bien ce sont les États-Unis contemporains qui ont fini par gommer leur propre culture et qui, en la gommant, seront incapables de se survivre à eux-mêmes.
Alors, parce que, comme tous les concepts nouveaux, on est d'abord un petit peu réticent à les convoquer. On veut d'abord les mettre à l'épreuve. Et vous avez déjà une bibliographie importante et vous avez expérimenté, enfin mis à l'épreuve finalement ce concept avec l'État islamique.
Oui, effectivement. Nous avons tenté de sonder l'État islamique pour voir dans quelle mesure il pourrait se perpétuer sur la longue durée. Alors c'est un cas qui est intéressant, l'État islamique, puisque c'est un petit peu, on pourrait dire, un fossile vivant. Ce fossile vivant dont Arnold Toynbee qualifie un autre pays, puisque l'État islamique, c'est la réémergence d'un califat qui a été assassiné plusieurs centaines d'années auparavant par les petits chevaux mongols du petit-fils de Gengis Khan qui ont écrasé le dernier calife enfermé dans un sac de toile. L'État islamique, c'est une construction qui est apparemment géoculturelle, qui puise dans une histoire, et c'est sa seule force, mais cela reste pour nous quand même une construction terriblement artificielle.
Pour revenir à l'Inde ou à la Chine, on s'aperçoit que c'est quand même deux pays qui n'ont pas de matières premières.
Effectivement.
Est-ce que c'est un atout pour eux, quelque part ?
Alors la Chine a des ressources, mais elle a besoin d'en importer. Elle a besoin aussi d'importer des matières premières agricoles. Je ne pense pas que les ressources soient le principal indice de la puissance et de la puissance sur la longue durée. Les indices de la puissance, nous en avons élaboré trois au sein de l'Institut Synopsis. C'est d'abord l'estime collective de soi, c'est-à-dire la force des valeurs culturelles et religieuses portées par les minorités émotives à culture forte, aptes à transmettre finalement leurs idées au détriment de leur vie s'il le faut. Ensuite, c'est la capacité imaginative des élites. Finalement, les civilisations se perpétuent lorsque les élites ont suffisamment d'imagination pour venir à bout des obstacles qui se dressent sur la route. Et lorsqu'elles n'ont plus d'imagination, eh bien, les élites mortes utilisent la violence afin de rester au pouvoir. Et puis le troisième critère, c'est la perpétuation de la vie, c'est la démographie. Donc les ressources, c'est important, mais ça n'est pas au cœur de la puissance.
Alors, on va en venir au principal acteur de ce monde, c'est l'Amérique. On s'aperçoit que l'influence du Sud va devenir de plus en plus importante et vous parlez d'un retour de l'isolationnisme. Est-ce que ça va être durable ? C'est vrai que depuis que Obama est aux manettes, on s'aperçoit qu'il intervient peu. Est-ce que c'est une volonté à long terme ? Même les Américains ont l'air de dire que le traumatisme de l'Afghanistan et l'Irak a été important dans les élites américaines.
Effectivement. Alors l'Amérique est un pays avec lequel nous entretenons des liens, avec des laboratoires comme celui de l'école navale américaine avec lesquels nous discutons, et nous pensons que, pour notre part, l'Amérique aujourd'hui donne l'illusion de la puissance, mais que cette Amérique est au bord de l'effondrement. Elle est au bord de l'effondrement parce que elle est aujourd'hui, on le voit, on a des indices faibles, hein, elle se rétracte, elle est en train de partir d'Afrique, partir du Moyen-Orient, mais elle n'est plus capable d'exercer un véritable leadership. Elle est rejetée par de trop nombreux pays, par de trop nombreuses populations, et elle va être forcée de revenir à son isolationnisme, donc retour de balancier, et ça peut durer un certain temps, le temps que l'Amérique reconstitue ses forces autour de sa culture. Mais sa culture va-t-elle la trouver alors qu'elle est aujourd'hui submergée par des migrants de toute nationalité? Ça n'est pas sûr. Donc il va falloir du temps pour que l'Amérique se retrouve elle-même, retrouve sa culture et retrouve, en retrouvant sa culture, retrouve une certaine modération dans l'usage de la force et puisse retrouver le chemin de la puissance.
Alors, haute surprise dans ces rapports, sur l'Amérique, c'est le couple israélo-américain. Pour les experts américains, d'ici 2030, il n'existera plus. Certains disent que ce couple serait une menace pour les Américains eux-mêmes.
Effectivement, et on a pu le voir lors des derniers mois, les Américains, la relation avec Israël, finalement, c'est en train de s'enrayer. De toute façon, Israël va connaître d'importants problèmes concernant sa propre défense au Moyen-Orient. Et Israël va chercher des puissances de substitution à l'Amérique à l'horizon 2030. C'est déjà le cas depuis quelques années, puisque l'Israël s'est plus davantage tourné vers l'Europe que vers l'Amérique, afin de chercher un bouclier protecteur. Et puis nous avons pu voir au cours des derniers jours que Israël allait même chercher auprès de la Russie finalement une puissance de substitution à l'Amérique pour la protéger au Moyen-Orient, mais cela ne sera pas sans contrepartie pour la Russie.
Pascal et Cédric.
Alors vous avez bien compris, on est en train de jongler entre votre livre 2030, le monde que la CIA n'imagine pas, que vous avez écrit donc avec Grégor Mathias aux éditions Giovannangeli, et votre livre que vous avez coécrit avec Olivier Hahn, Géoculture, plaidoyer pour des civilisations durables aux éditions Lavoiselle. Vous venez de parler d'Israël. Vous êtes un spécialiste de l'Iran. Et on est surpris de lire sous votre plume, dans Géoculture, que le face-à-face entre l'Iran et Israël fait plus figure de relations gémellaires ambivalentes que d'un duel à mort.
Effectivement,
c'est quand même assez, par rapport à l'ambiance médiatique, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est surprenant.
En fait, il faut voir ce face-à-face entre Israël, ou le peuple d'Israël, et le peuple perse au prisme de l'histoire et de la longue durée. Sur la longue durée, il y a plutôt de bonnes relations, et même souvent de très bonnes relations, entre la Perse et Israël. L'Israël et la Perse se présentent tous deux comme des centres créatifs, poétiques, et qui ont influencé durablement leur entourage grâce à des textes poétiques, des textes religieux. Et donc il y a une sorte de relation gémellaire, une sorte de finalement deux pays qui se regardent au miroir l'un de l'autre. Alors dans des relations gémellaires, il peut y avoir des relations très violentes, d'assassinat, ou alors une relation fusionnelle. Ce que nous avons pu entendre comme diatribe d'un pays envers l'autre au cours de la dernière décennie n'était pas destiné à nos oreilles. Les provocations verbales iraniennes à l'égard d'Israël étaient destinées à la rue arabe. En effet, le rêve d'Iran, c'est de fédérer la rue arabe autour de la puissance persane. Voilà, c'est le rêve chiite, c'est un rêve qui est rejeté par les populations arabes parce que l'Iran n'est pas arabe précisément et qu'il n'est pas sunnite. Et puis les provocations en retour d'Israël vis-à-vis de l'Iran, ces provocations ne visent pas nos oreilles occidentales, mais elles visent la population israélienne, qui est très divisée. Et face à une population divisée, il est bon de désigner un ennemi afin de la fédérer. Donc c'est dans un but de politique interne que l'Iran a été utilisé par Israël comme un bouc émissaire.
On pourrait, et je crois que c'est rappelé dans votre livre, même si ce rapprochement Israël-Iran aujourd'hui est un peu surréaliste, mais peut-être que les auditeurs de Radio Courtoisie se souviennent qu'on avait reçu l'ambassadeur d'Iran qui nous expliquait qu'il y avait des députés qui représentaient en Iran la population juive, la minorité juive sur place, chose qui n'existe dans aucun autre pays arabe.
Effectivement,
musulman.
Israël a longtemps appelé les Juifs d'Iran à émigrer en Israël, ce qu'ils ont toujours refusé en raison de leur place somme toute privilégiée dans la société iranienne. Ils sont représentés au Majlis, donc au Parlement iranien, et peuvent commercer et en toute tranquillité en Iran. Donc les liens sont plus complexes qu'il n'y paraît.
Pascal Essérique.
Alors, il y a un acteur dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, et je crois que Philippe Christel, qui doit nous écouter, nous le reprocherait si on n'en parlait pas, c'est la Russie. Là aussi, vous avez, avec votre groupe, des vues intéressantes. Est-ce que vous pouvez nous les exposer ?
Eh bien, la Russie est un petit peu le contre-exemple d'une évolution de pays occidental ou d'autres pays européens. Elle va suivre une évolution différente. Elle va suivre une évolution différente puisque Vladimir Poutine, on peut le dire, a déjà opté pour une politique que l'on pourrait qualifier de géoculturelle. Il puise aujourd'hui dans l'identité culturelle et religieuse russe afin de poser des jalons pour l'avenir. Il y a donc de très fortes chances pour que la Russie, contrairement à ce que peuvent penser les rapports de la CIA, mais qui les croit aujourd'hui, la Russie va connaître une évolution, elle va se fortifier. Elle sera capable de gérer ces minorités musulmanes qui sont bien plus importantes qu'en Europe, puisque grâce à sa tradition de politique impériale et surtout au fait que la Russie est capable d'imposer quelque chose de supérieur à l'islam, quelque chose qui compte plus, c'est l'identité nationale. Et on peut voir d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans les sondages, lorsqu'on pose la question aux Russes pour savoir s'ils ont un problème avec l'islam, 95% des Russes disent « mais nous n'avons aucun problème avec l'islam ». Bref, la Russie va devenir un pôle moteur et il est très probable, nous l'envisageons en tout cas pour 2030, que la Russie, face au chaos que l'on connaîtra en Europe occidentale, attirera des élites d'Europe occidentale, comme elle l'a fait au XVIIIe siècle, et on verra les universités de Saint-Pétersbourg ou d'autres grandes universités russes sélectionner soigneusement les savants, les chercheurs, les universitaires, les ingénieurs qui viennent se présenter pour étudier ou bien pour s'installer en Russie. Et par conséquent, il est très probable que la Russie sera irriguée par la partie la plus vivante des élites européennes dans les 15 ans à venir.
Et le passage le plus étonnant aussi de votre livre, je vais arrêter de dire étonnant à propos de votre livre, parce qu'en fait, vos scénarios sont toujours très originaux, mais sur ce passage-là, sur la Russie et sur le réchauffement climatique, et le réchauffement climatique à l'origine d'une recomposition à la fois maritime, enfin de puissance, est-ce que vous pouvez développer ?
Alors oui, le réchauffement climatique va avoir des conséquences géopolitiques qui sont peu étudiées jusqu'à présent. En particulier, la voie maritime située au nord de la Russie va être davantage utilisée et aura des conséquences géographiques sur le développement de la Russie septentrionale sur laquelle vont émerger des nouveaux pôles de développement, des villes. Il est possible que nous allons voir naître de nouvelles villes au nord de la Russie, le long de cette voie, qui raccourcira singulièrement la distance entre Rotterdam et le Japon ou la Chine.
Et le canal de Suez verra son trafic divisé par deux. Le maréchal Sisi qui vient d'inaugurer qui vient d'agrandir le canal de Suez va être dans des positions.
On peut voir effectivement, cela n'a pas été noté cet été, mais les grands travaux et l'inauguration spectaculaire du nouveau canal de Suez, si on la met en perspective avec le trafic naval qui sera celui de 2030, il est possible qu'il y aura beaucoup moins de bateaux qui passeront par le canal de Suez qu'aujourd'hui au profit de cette voie septentrionale qui naturellement bénéficiera à la Russie.
Vous dites qu'on n'en parle pas beaucoup, mais enfin les Russes, et je pense que c'est pas pour rien, ont symboliquement été faire des expéditions dans ces coins-là pour aller quasiment mettre un drapeau russe au fin fond de l'océan pour dire c'est notre terre. Eux, ils y pensent très fort à ce passage-là.
Effectivement, les scientifiques russes les militaires, les diplomates y pensent très fort et ont déjà posé des jalons afin de sécuriser ces terres, et il y aura forcément une concurrence exacerbée entre le Canada, la Russie et les États-Unis pour la mainmise sur ces territoires qui plus est riches en matières premières.
Alors vous prenez aussi d'autres risques parce que sur l'affaire ukrainienne, vous êtes quasiment catégorique, l'Amérique abandonnera les Ukrainiens au bout d'un moment, et la main tendue de la Russie, soit de Poutine ou de son successeur, les Ukrainiens vont la prendre sans problème.
Effectivement, l'Ukraine n'est finalement pas une affaire nouvelle. Le fait pour l'Amérique de s'appuyer sur l'Ukraine afin d'affaiblir la Russie, l'Amérique ne fait que reprendre une vieille politique qui était une politique française. Hein. C'est la politique de Mazarin, la politique de Vergennes, la politique de Napoléon Ier. Napoléon Ier qui avait imaginé créer un État cosaque indépendant, la Napoléonide, afin d'affaiblir le tsar de Russie. Cette politique européenne, qui a été reprise par les États-Unis afin d'affaiblir la Russie, ne pourra pas tenir dans le temps, dans la mesure où les Américains vont se retirer d'Europe occidentale. Et donc, nécessairement, Kiev, qui est la mère des villes russes, la matrice des villes russes, reviendra forcément à ses origines culturelles.
Alors, comme dirait Pascal Essérick, autre surprise dans votre livre, sur alors là on va changer de continent, c'est sur l'Amérique du Sud. On a parlé de la Russie, on a parlé de l'Inde, de la Chine, et dans ces fameux briques, il y a le Brésil. Et alors pour vous, le Brésil, ça risque d'être une catastrophe.
Sociale, une catastrophe en raison des mauvais investissements qu'a fait le Brésil et que pourrait faire le Brésil dans les années à venir. Ce Brésil qui est présenté aujourd'hui comme la grande puissance fédératrice ou tutélaire de l'Amérique latine.
Vous la comparez un peu avec l'Afrique du Sud.
Effectivement. En fait, nous avons peut-être deux cas similaires de fausses puissances, de fausses nouvelles puissances. Bien sûr, le Brésil va tâcher d'affermir ses liens avec d'autres États sud-américains. Il va tâcher également de se développer en ses liens avec l'Afrique, notamment avec les anciennes colonies portugaises que sont l'Angola et le Mozambique. Et on pourra voir prochainement des Brésiliens investir dans cette ère lusophone, mais cela n'empêchera pas le Brésil de connaître de sérieux problèmes économiques et sociaux.
Autre chapitre, alors qui rejoint aussi le Brésil, c'est un moment où vous parlez des. Alors, je suis en train de chercher la page, je ne l'ai plus, mais sur les carburants à base de végétaux.
Oui, effectivement, les agrocarburants.
Voilà, vous dites que ça va être la véritable catastrophe, ça.
C'est déjà un désastre écologique. Et puis surtout, il y aura des conséquences alimentaires, puisque ces agrocarburants se substitueront à des cultures de céréales qui sont bien nécessaires aujourd'hui à la population brésilienne.
Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour de tout.
On a fait le tour, sauf sur l'Iran, alors même que Thomas Fischin...
On a un peu parlé, oui.
Exactement, Thomas Fischin de La Neuville est spécialiste de l'Iran. Il y a un... Vous prenez un parti pris assez audacieux en indiquant que l'Iran sera la puissance de demain par rapport à la Turquie qui va, elle, plutôt décliner. Sur quoi vous appuyez-vous ?
La Turquie va devenir un pays atelier. La Turquie aura besoin des ingénieurs turcs qui ont été formés en Allemagne. Elle aura besoin de cadres. Mais la Turquie ne sera pas capable de concurrencer l'Iran. Si l'Iran arrive à attirer à la fois les capitaux chinois, russes, américains et européens, l'Iran, qui est un... plus vieil État que la Turquie, est plus innovant, a la capacité également d'avoir une influence à la fois au Levant, en Syrie, au Yémen, dans la plaine du Tigre, sur les anciennes fenêtres de finalement son empire qui a disparu. L'Iran sera plus innovant et plus créatif et plus puissant sans doute que ne sera la Turquie.
Grâce à son alliance avec l'Inde.
Grâce à son alliance avec l'Inde et finalement grâce à sa politique d'équilibre. Et il faudra que il serait souhaitable que la France, qui a eu une relation très positive avec l'Iran pendant des décennies, il serait souhaitable que la France renonce à ses discours idéologiques vis-à-vis de cette puissance afin de renouer avec un vieil allié qui était considéré comme une France de l'Orient à la cour de Louis XIV. La France connaîtra en 2030 des difficultés, mais il y a aussi des signes d'espérance. Et pour ces signes d'espérance, je pense qu'il faut les voir à travers le prisme de l'histoire. Et je voudrais me référer ici à un ouvrage majeur, à une thèse majeure, celle de Stéphane Baudin, qui travaille avec nous à Saint-Cyr au sein de Synopsis et qui a travaillé sur les pré-révolutions au XVIIIe siècle et qui explique que les pré-révolutions, les temps de pré-révolution dans lesquels nous sommes plongés aujourd'hui, ce temps de pré-révolution du XVIIIe siècle, la pré-révolution, la révolution, elle est précédée par une victoire intellectuelle. Et les Lumières ont déjà gagné 50 ou 60 ans avant 1789. Eh bien, c'est exactement l'inverse qui s'est produit aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on peut dire que la pensée libérale a connu une défaite cuisante, elle s'est aujourd'hui effondrée dans le vide, et cette défaite intellectuelle va pouvoir permettre, dans des isolats, peut-être dans des états, des renversements. Et voilà, cela est un signe fort d'espérance.
Alors, c'est pas au rédacteur en chef d'Élément qui, Élément a popularisé le concept de guerre culturelle pendant plusieurs années, qui vous dira le contraire. Je voudrais vous poser une dernière question. C'est celle de la réception dans le milieu politique critique ou médiatique de votre, enfin de vos ouvrages. Est-ce que il y a eu un écho particulier? On sait que la recherche universitaire française est coupée de ses liens avec l'entreprise ou avec le monde politique. Est-ce qu'il y a eu des, est-ce que vous avez
des échos favorables ou défavorables?
Effectivement, nous avons eu de très nombreux échos et tout à fait finalement de personnalités, de journaux, d'universitaires très variés. En fait, nous avons tenté à travers ces deux ouvrages de présenter ce qui était le plus proche de la vérité pour nous, sans effet de manche et sans vouloir se cacher derrière des discours. Et je pense que ce ton libre a plu à des gens extrêmement variés de tous bords. Le monde diplomatique aujourd'hui fait une recension du monde en 2030, mais c'est le cas aussi d'éléments qui vont parler. Donc je pense que nous avons eu des échos de toutes parts, non seulement en France, mais également à l'étranger, puisque 2030 va être traduit en langue allemande et sera publié prochainement chez Vergangenheit Verlag, qui est une édition liée à l'Université de Berlin. Donc nous avons beaucoup de retours.
Alors, on va terminer quand même avec une question qui m'intrigue, parce que je vous avoue que je ne l'ai pas lu en entier, votre livre, j'ai arrêté à la page 156 pour l'émission, mais vous terminez pour une trentaine de pages par la prospective au conte fantastique qui s'appelle « Comment le chevalier bleu fut transporté en son royaume et le trouva dévasté ». Alors peut-être un mot sur ce conte, qui l'a écrit, est-ce que vous l'avez écrit à plusieurs, ou c'est une simple un simple amusement ?
Alors c'est un... cela peut paraître un simple abusement, alors c'est moi qui l'ai écrit, ce petit conte. C'était en fait, paradoxalement, le point de départ de cet ouvrage. Cet ouvrage, il a commencé par un conte de fées, et puis nous avons décidé de lui adjoindre une analyse scientifique. En fait, c'était deux façons de concevoir l'avenir, une façon qui était plus rigoureuse, plus scientifique, avec, on l'a montré tout à l'heure, un indicateur, et puis une façon plus libre, plus déliée, plus fantasque, qui permet de dire d'autres choses, et qui, j'espère, amusera peut-être pas les lecteurs adultes, mais peut-être leurs enfants. Alors, c'est un livre qui peut être lu à deux voix.
En tout cas, je vous promets, je le lirai dès que j'aurai fini cette émission. Thomas Flichy-Ladeville, on vous remercie. Merci pour votre venue à Radio Courtoisie. Je rappelle aux auditeurs le titre de votre livre avec Grégor Mathias, c'est 2030, le monde que la CIA n'imagine pas, chez Bernard Giovannangeli, éditeur, et aussi Géoculture, plaidoyer pour des civilisations durables, avec Olivier Hahn et vous-même Thomas Flichy-Laneuville, aux éditions La Voselle. Merci bien, nous allons faire une petite pause et on se retrouve d'ici quelques minutes, mon cher Pascal, parce que nous avons un deuxième invité par téléphone. Vous me l'avez appris il y a quelques minutes, j'étais surpris. Voilà,
mais c'est Laurent Chang pour les éditions Le Pôle et Marc.
Eh bien voilà, on le retrouve dès la fin de la pause. Deuxième partie de ces chroniques de la vieille Europe, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Après cette première partie sur l'avenir de notre monde avec Thomas Flichy-Laneuville pour son livre 2030, le monde que la CIA n'imagine pas, on va aller aussi vers d'autres livres, mais cette fois-ci des livres plus de stratégie, de guerre, mon cher Pascal, car nous avons, je crois, Laurent Chang qui est en direct de Radio Courtoisie, c'est ça Laurent ?
Je suis là.
Ah, bonsoir, parfait. Messieurs. Parfait, bonsoir. Laurent. Donc, je vais laisser la parole à Pascal parce que vous avez une actualité aux éditions Le Pôle et Marc, mm-hmm. qui paraît être très riche.
Exactement. donc Laurent Chang est le directeur et le fondateur des éditions Le Pôle et Marc. Et Laurent, vous publiez trois ouvrages que vous avez présentés, me semble-t-il, au Festival de Nancy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, c'est exact. J'ai profité du Salon du Livre de Nancy, étant moi-même nancéien, pour présenter ces trois ouvrages qui sont un peu ceux de la rentrée du Pôle et Marc, en la présence des auteurs. C'est la première fois que je publie trois livres simultanément. Ils sont tous les trois dans des domaines assez différents. Le premier est du colonel Olivier Entraigue, colonel d'infanterie, que les spécialistes, ou en tous les cas les connaisseurs du général Fuller, ont déjà lu par ailleurs. Le premier, donc, c'est Olivier Entraigue qui se nomme intitulé La troisième voie, la pensée politique du général Fuller. Le deuxième de Bernard Wicht, qui a déjà publié aux éditions de Paul et Marc, et qui poursuit sa réflexion par un petit livre intitulé L'avenir du citoyen soldat. Et puis, plus historique, de Jean-François Tulle, que votre radio connaît également, un opuscule intitulé Klaus Schenk von Stauffenberg, le chevalier foudroyé, puisque Jean-François Tulle est un germaniste, un historien particulièrement intéressé par l'Allemagne, et donc qui était tout indiqué pour nous parler de cette très belle figure.
Alors, on va peut-être commencer par Jean-François Tulle. Il prend un personnage qui est là-dessus, selon où on va, et prête à polémique. Est-ce qu'il réhabilite ce soldat? Peut-être un mot, Laurent Chang, qui était ce soldat et en fait ce qu'il a fait?
Klaus Schenk von Stauffenberg, c'est l'héritier d'une très grande famille d'aristocrates allemands, non prussiens du reste, sud de l'Allemagne. Il est surtout connu pour avoir placé la bombe sous la table du bunker le 20 juillet 1944, qui devait tuer Hitler. Et on sait dans quelles circonstances rocambolesques cet attentat a échoué. Avec cet attentat échoué, a échoué également toute une conspiration qui visait à faire tomber le Troisième Reich. Donc ça, c'est la figure de Klaus Schenk von Stauffenberg pour l'aspect militaire. C'était donc un officier de cavalerie. Mais c'était aussi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant, c'est
voilà.
Vraiment
c'est ce qu'il y a de plus, enfin l'apport de Jean-François Tulle, voilà. c'est de décrire ce personnage par rapport à la révolution conservatrice.
Voilà.
Et des frères Junger.
C'est ça. Le plus intéressant, c'est ça, parce que bon, la partie attentat, elle est connue, elle a même fait l'objet de films. Le plus intéressant, effectivement, c'était plutôt, et c'est ce sur quoi j'ai vraiment insisté, c'est plutôt les idées, tout le corpus doctrinal qui a mené cet officier à commettre cet acte dont il savait très bien que d'abord il était certainement voué à l'échec et qu'il ferait de lui aussi pour des décennies un traître à sa propre patrie. Et effectivement, il se trouve que Stauffenberg, les deux frères Stauffenberg, qui étaient très jeunes, hein, dans les années 20-30, ils avaient à peine une vingtaine d'années, ils ont gravité dans la mouvance révolutionnaire conservatrice, et en particulier dans son expression la plus littéraire, la plus lyrique, la plus poétique, puisqu'ils étaient des disciples de Stefan Georg, et avec lui, ils ont donc il constitue ce qu'on appelle le cercle de l'Allemagne secrète, Geheimes Deutschland. Et ceux qui s'intéressent d'ailleurs à Stefan Georg peuvent encore aujourd'hui trouver des poèmes dans lesquels sa pensée est résumée.
Oui, tout à fait. Les éditions Crisis ont publié Les Titans et les Dieux.
Voilà.
Et alors, on va peut-être passer au deuxième livre, celui de Bernard Wicht, qu'on avait reçu aussi sur Radio Courtoisie.
L'avenir du citoyen soldat. Alors,
c'est
une, C'est un petit opuscule.
Oui, il est tout est résumé dans le titre. Il prolonge, il poursuit la réflexion entamée avec vers une nouvelle guerre de 30 ans qu'il avait déjà publié, qu'il avait publié au Polémarque il y a 4 ans et qui a été un tel succès que et puis surtout même si ça n'avait pas été un succès de toute façon, Bernard continue sa réflexion sur la question de la fin de notre civilisation et sur la nouvelle forme que doit prendre la citoyenneté en se fondant sur ces thèmes privilégiés. Bernard est suisse et il est très attaché à la notion de citoyen-soldat. Pas de citoyenneté sans service militaire, et pas un service militaire entendu comme simplement 12 mois effectués dans une caserne, mais bien sur toute une vie. La fin également du contrat obésien, c'est-à-dire que l'État a le monopole de la violence et perçoit l'impôt en échange de notre sécurité collective. Et puis plus généralement, et on est vraiment là dans l'actualité, sur la dilution des États, la recomposition, voire en tout cas la dissolution des États-nations et le retour vers ce que Bernard appelle un nouveau Moyen-Âge.
Oui, parce que pour lui, si je me souviens bien, l'État-nation est en train de disparaître.
C'est ça. Bon, il ne le voit pas avec énormément... Enfin, il le regarde avec un œil suisse, donc c'est très intéressant, parce que il n'a évidemment pas du tout de la nation l'idée que les Français en ont généralement. Donc, pour lui, l'avenir se trouve bien dans une recomposition de type cantonal. Qui sera d'autant plus facilité ou du moins accéléré par la désagrégation dans l'idée qu'effectivement tout l'Occident capitaliste s'effondre. Donc des petites structures naîtront et ces petites structures citoyennes où l'individu reprendra finalement ses droits. Ces petites structures seront d'abord de type géographiquement cantonal.
Je ne sais pas si vous avez écouté la première partie, parce que je ne suis pas sûr qu'à Nancy on reçoit directement la radio. Vous pouvez aller l'écouter sur Internet, cher Laurent.
En différé,
oui, c'est vrai. Parce que tout à l'heure, Thomas Fléchy de La Neuville nous expliquait que le cas de la France pourrait se terminer en un système fédéral. Est-ce que vous voyez un peu à travers les thèses de Bernard Witsch, ce genre de scénario d'ici 10-15 ans, c'est-à-dire des États, enfin des régions qui sont pas les régions qu'on est en train de construire, mais ces petites identités qui vont pouvoir survivre dans cette mondialisation.
Alors Bernard, lui, pense que dans 10 ou 15 ans, nous n'en serons pas encore là. Il va dans le même sens. Effectivement, mais lui, il pense qu'au contraire, le cycle capitaliste tel que nous le connaissons arrivera à son terme dans 10 à 15 ans. Après quoi, il y aura une période de troubles, de flou, qui ressemblera beaucoup plus d'ailleurs à la fin de l'Empire carolingien qu'à la fin de l'Empire romain. Nous en avons longuement discuté, lui et moi, lors du salon ce week-end dernier. Et après, effectivement, mais parce que c'est naturel, de petites structures se recréeront qui, avec le temps et le retour d'une certaine stabilité, s'agrégeront en des structures un peu plus grosses, etc., etc., etc. On pourrait très bien aboutir, effectivement, alors pour la France comme pour la Suisse, soit à une confédération, soit à une fédération. Vous connaissez la différence entre les deux. Après,
non, mais peut-être que pour les auditeurs, vous allez pouvoir l'expliquer. Ah. Quelle est la différence exacte ensemble.
Bon, beaucoup plus. Très simplement, la confédération laisse beaucoup plus de latitude aux États confédérés que la fédération.
Ah, voilà. Très bien. Ah, voilà, c'est une bonne explication pour les éditeurs de Radio Courtoisie.
C'est le plus simple du monde, c'est celle-là.
Et pour moi-même. On va passer peut-être au troisième ouvrage.
C'est la troisième voie, la pensée politique du général Fuller. Alors, c'est un drôle de bonhomme, ce général Fuller. Parce que... c'est un officier britannique. Bon,
oui.
britannique, mais en même temps pro-germanique. On peut dire qu'il était fasciste, qu'il était antisémite, qu'il était provocateur, que, enfin bon, qu'il était journaliste, qu'il était politicien. Et puis, on peut même dire que c'est lui qui a inventé le concept de Blitzkrieg.
Oui, c'est-à-dire que je relativiserais l'adjectif politicien. Il a été conseiller très proche de Mosley, soit le Mosley, et de son union fasciste britannique. Pour autant, il n'était pas lui-même directement dans l'arène. Si on doit garder une chose de Fuller, c'est effectivement le fait que c'est certainement avec Svetchin, théoricien militaire soviétique, le plus grand penseur militaire du XXe siècle. Et il est effectivement, plus que la Blitzkrieg, il est tout simplement celui qui a le premier pensé l'arme blindée. L'arme blindée comme étant l'arme du futur. Celle qui déjà allait résoudre le premier conflit mondial. Et ensuite celle qui allait dominer les champs de bataille du XXe siècle. En ce sens, Fuller est véritablement le penseur militaire du XXe siècle. Mais dans le cadre de ce livre, Olivier Entrec, qui est vraiment le spécialiste français de la pensée de Fuller, qui a lui-même été attaché militaire français à Sandhurst, qui est l'équivalent britannique de Saint-Cyr, et où il a pu étudier directement aux meilleures sources, Olivier Entrec, là, s'est attaché à traduire, à présenter et ensuite à traduire tout un ensemble de textes, quasi l'intégralité d'ailleurs des textes qu'on va appeler politiques de Fuller, tout en sachant que la stratégie, la géopolitique, la géostratégie et la tactique ne sont jamais loin chez Fuller. Fuller, c'est un archi-britannique, si vous voulez, comme Malaparte disait qu'il était archi-italien. C'est du reste un livre qui préfigure ce qui formera une trilogie, voire une tétralogie fullerienne au Polémarque.
Comment ça se fait que... Alors, quel a été d'abord son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale ?
Il a été quasi nul. Il a été quasi nul, comme Liddell Hart, qui était son ami ennemi, son frère ennemi. Ils ont été quasi nuls. Pour une bonne et simple raison, c'est que Fuller est sorti de l'entre-deux-guerres entaché par son soutien à Mosley.
Oui.
Donc, de la même manière que Liddell Hart, lui, voulait que les Anglais et les Britanniques restent neutres, Fuller, lui, avait ce passé encore très très récent de pro-fasciste britannique. Et par conséquent, ils sont restés largement sur la touche pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il a beaucoup écrit, Fuller, mais on l'oublie. Enfin, ça paraît pas évident comme ça, mais les guerres sont souvent les derniers moments où on laisse s'exprimer les théoriciens militaires. Parce que tout simplement, on n'a pas le temps.
Donc on n'a pas le temps de les surveiller.
Et on n'a pas le temps de les surveiller, on n'a surtout pas le temps de les écouter. Oui. Donc ce qu'il faut, c'est que les théoriciens militaires, il faut qu'ils s'expriment en période de paix. Et donc Fuller, on ne l'a pas beaucoup écouté. C'est après-guerre que de nouveau, il a retrouvé une aura. Une aura d'ailleurs qu'on trouve, qui n'existe pas vraiment en France. En France, on peut dire que c'est vraiment un penseur qui reste toujours mineur.
Il a été déjà traduit avant vous ?
Alors, il y a très peu de choses. Très peu de choses. Vous trouverez un livre qui s'appelle La conduite de la guerre en poche paillot, qui est vraiment une synthèse de son travail, qui est plus une œuvre historique où il brosse les grandes périodes, ce que souvent font les historiens militaires. Et puis, vous trouverez aussi, mais là, ce sera vraiment pour les bibliophiles, trois tomes d'un livre qui s'appelait La bataille décisive, publié chez Lavoiselle, un éditeur hyper spécialisé là aussi. Mais c'est tout. Effectivement, on trouve très très peu de choses de Fuller.
Alors vous avez réuni quoi exactement dans ces troisième voies de la pensée politique ?
Alors, dans la troisième voie, ce sont des articles politiques. Donc vous avez aussi bien, on les a découpés en parties, vous avez la géographie comme expression du caractère national anglais, donc ça c'est très intéressant d'ailleurs. Vous avez des articles sur le fascisme, des articles sur l'antidémocratisme exprimé par Fleur. Vous avez des réflexions sur la civilisation occidentale, sur la guerre à l'occidentale, des réflexions sur l'Empire britannique ou les différents empires, et puis des essais de prospective, une fois comment l'Empire britannique évoluera après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et sa victoire, ainsi que des textes sur Clausewitz. Il reprend les grandes pensées militaires des siècles précédents pour les réactualiser ou les réévaluer. Voilà. Donc c'est déjà une somme de près de 400 pages qui permet d'avoir une bonne idée de la vision du monde qu'avait Schuller.
Pascal Essérick.
Oui, ce sont des nouvelles traductions.
Ah oui, mais ce ne sont même pas des nouvelles traductions, ce sont des traductions totalement inédites. C'est la première fois qu'on les trouve en français.
Mon cher Laurent Schorr, vous allez nous rappeler les trois titres de vos livres, les prix et comment les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent se les procurer. Vous avez donc 3 minutes, on ne va pas dire de réclame, on n'a pas le droit de dire ça, mais d'informations sur les éditions Polémark.
Alors rapidement, Bernard Wicht, L'avenir du citoyen soldat, 10 euros. Jean-François Tulle, Klaus Schenk von Stauffenberg, Le chevalier foudroyé, 10 euros. J'essaye de publier des livres à bas prix. Et Olivier Entraigue, La troisième voie, la pensée politique de J.F. Schuller, qui celui-ci est à 20 euros. C'est un volume qui fait près de 400 pages. Pour vous les procurer, bah, vous allez chez votre libraire, vous allez sur Internet. En priorité, vous allez sur le site Le Polémark, www.editionlepolémark.com, et vous pouvez commander en ligne. Et sinon, il existe des libraires sur Internet qui peuvent vous procurer, chez qui vous trouverez mes livres, sachant que j'essaie de me débarrasser de cette collaboration pesante avec les gros libraires sur Internet.
Pascal Essérick.
Oui, avant de vous laisser travailler, puisque vous avez... Puisque vous avez un article à rendre à une certaine revue.
Oui, d'ailleurs, il faudra que je lui dise que je le rendrai certainement pas à l'étang.
Avant ça, est-ce que vous pouvez nous faire un petit compte-rendu de ce que vous avez organisé, c'est-à-dire la conférence sur le capitaine d'Henrit, et donc qui est tiré donc du livre que vous avez publié, Drian d'Henrit par Jean Mabir, et vous avez organisé une conférence à Nancy. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Oui, donc c'était mercredi dernier, au musée Lorrain, dans les bâtiments du palais ducal de Nancy. Une petite conférence organisée avec l'aide, l'appui de Jean-Jacques Langendorf, grand spécialiste et collectionneur de l'œuvre de Drian. Donc, petite conférence dont je suis très satisfait parce qu'il n'y avait pas une grande foule, mais des gens intéressés. Certains sont venus d'assez loin même pour assister à cette causerie. Et durant laquelle donc, j'ai présenté d'abord qui était Drian, rapidement également quelle est son œuvre. En rappelant également l'histoire du livre que j'ai édité, le livre de Jean Mabir. Après quoi, Jean-Jacques Langendorf, avec son brio, sa verve et sa culture habituelle, a resitué l'œuvre de d'Henrit dans son époque, en montrant, et d'ailleurs, ça c'est passionnant, en nous apprenant des choses, des détails vraiment très intéressants que j'ignorais et que Mabir ignorait lui-même, et en montrant à quel point Drian d'Henrit appartient à une génération totalement oubliée de nos jours d'écrivains militaires d'anticipation. On l'a oublié, mais cette époque-là de 1890, 1890, 1914, c'est une époque qui foisonne d'auteurs qui se livrent au roman, à la fiction et en même temps à la prospective militaire et géopolitique.
Ça tombe bien parce qu'on a invité Thomas Flich de Lenneville qui a travaillé, qui essaie de son côté de remettre au goût du jour à l'avant en France, en tout cas pour le public français, la prospective.
On se rend pas compte, on avait déjà discuté, je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie s'en souviennent de ce livre de Jean Mabir, mais on ne se rend pas compte, ça a été des énormes succès populaires à l'époque.
Ah oui, c'était... Je ne sais pas exactement combien de millions d'exemplaires vendus. L'œuvre complète de Drian, c'est plus de 35 000 pages. Ce sont des centaines de milliers d'exemplaires vendus, avec des 5 trilogies publiées en 15 ans, plus une dizaine encore d'ouvrages. C'était des livres que les militaires et les enfants d'ailleurs lisaient comme on pouvait lire à l'époque Jules Verne. Drian était l'équivalent de Jules Verne. Jules Verne lui-même disait d'ailleurs qu'il était son alter ego militaire. On se souvient que de Jules Verne aujourd'hui, on a oublié Drian. Mais Drian vaut bien Jules Verne, aussi bien par la plume que par l'invention, par la folie de la romanesque. C'était des livres qu'on offrait au premier prix de la classe.
Comment on explique que Jules Verne, qui est resté, même si une bonne partie de ses livres, quand même, ne sont plus beaucoup lus, et qu'il n'y a pas le moindre livre de Denry qui est resté dans la mémoire de notre jeunesse. Est-ce que c'est le côté sulfureux des sujets qu'il a amené dans ses histoires?
Oui, très clairement. Il y a deux livres aujourd'hui qu'on peut encore trouver aux éditions Les Belles Lettres. Ce sont vraiment des livres qui n'ont aucune charge polémique, qui sont très, on va dire, anecdotiques, quoique très très plaisants dans l'œuvre de Drian. C'est sûr que ce qui a nuit à Drian, c'est l'invasion noire et l'invasion jaune, qui sont deux livres qu'avec notre regard biaisé d'aujourd'hui, notre prétention à juger le passé à l'aune du présent, nous qualifierions de racistes. Donc ça, c'est sûr que l'invasion jaune et l'invasion noire sont des livres qui seraient impubliables de nos jours et qui classent Drian parmi les auteurs sulfureux. Bon, outre le fait que ça, dans sa propre biographie, c'était un nationaliste, donc, mais quel militaire ne l'était pas à cette époque?
Oui.
Hein, et puis voilà. Et ce qui également lui a nuit, c'est tout simplement la Première Guerre mondiale le tue deux fois. C'est-à-dire qu'il meurt, en 1916, au deuxième jour de la bataille de Verdun, mais il meurt aussi des effets de la Première Guerre mondiale et, ma foi, durant l'entre-deux-guerres, de ce besoin d'oublier la guerre et du pacifisme. Militant, ce qui peut très bien se concevoir d'ailleurs. Et donc, on n'a plus envie de lire Drian. On n'a plus envie de lire ses histoires de guerre, on n'a plus envie de lire ses histoires de conquête militaire, ses rivalités nationales. Elle reste toujours très présente, on le sait, mais les gens veulent autre chose. Donc, Drian, effectivement, s'estompe.
Vous n'avez pas eu, depuis la sortie du livre de Jean Mabir et depuis la conférence, aucune piste d'éditeur qui serait prêt à rééditer son œuvre, ou une partie, simplement.
Alors, moi j'ai une piste parce que c'est moi-même. Donc, avec Jean-Jacques Langendorf, nous préparons effectivement une réédition qui s'appelle Ce sont les mémoires du lieutenant Pifke, mais qui est un livre assez à part également dans l'œuvre de Drian, puisque là, Drian imagine. C'est la seule fois qu'il le fera, parle d'un officier allemand. Donc il se place du côté de l'ennemi. Et c'est là où on voit d'ailleurs qu'il était très très bien renseigné. Sinon, effectivement, je crois savoir que, mais je ne connais pas le nom de l'éditeur, mais je crois savoir qu'effectivement, du côté de la Bretagne, il y a un éditeur qui ambitionne de rééditer un petit nombre d'exemplaires, l'invasion noire et l'invasion jaune, ce qui est courageux.
Oui.
courageux aussi bien vu effectivement les thématiques abordées, hein, puisque d'un côté c'est donc les Chinois qui déferlent sur l'Europe, l'invasion jaune, et de l'autre c'est les Noirs fanatisés par les musulmans qui déferlent également sur l'Europe, ça c'est l'invasion noire. Donc le djihad, hein, ni plus ni moins, le péril jaune d'un côté, le djihad de l'autre, et puis tout simplement parce que ce sont des volumes énormes, ce sont à chaque fois trois tomes de 500 pages en caractère serré.
Ouais.
Donc, notre époque n'est pas spécialement propice à ce genre de publication.
Ok, bah écoutez, merci beaucoup Laurent Chang. D'autres projets, d'autres livres en projet,
enfin, c'est déjà pas mal, non?
Non.
Comment non?
On est quand même déjà reparti, c'est-à-dire que pour Noël, ce sera un livre que j'ai dû reporter plusieurs reprises, mais qui là arrive à son terme, qui s'appellera La Résistance Totale, en allemand Total Widerstand, qui est donc la première traduction française d'un manuel de contre-guérilla suisse, rédigé dans les années 60. Donc, des textes agrémentés de croquis, de dessins, de plans, de schémas, écrits par un personnage très original suisse qui s'appelait Major von Dahr, et qui avait été un livre qui avait, après avoir connu un grand succès, il est toujours édité en anglais d'ailleurs aux États-Unis, qui avait été retiré de la vente en Suisse, parce que quand la bande à Bader a été arrêtée, on s'est rendu compte que c'était leur bréviaire. Il existait une traduction italienne, une traduction allemande, et pas de traduction française, étonnamment, même en Suisse. Et donc là, encore une fois, Bernard Wicht nous prépare une postface, qui sera elle aussi un prolongement de l'avenir du citoyen soldat. Donc ça, ce sera le premier. Ce sera mon dernier livre pour 2015.
Bon, ben très bien. Donc, s'il y a des mouvements terroristes qui se mettent en place à Genève ou à Lausanne, on saura pourquoi, mon cher Laurent Chang.
Exactement.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.
Et
à une prochaine, Laurent Chang. Il nous reste donc 3 minutes. Je crois que vous avez une information superbe, c'est que le prochain Crisis va bientôt sortir.
Oui, le prochain Crisis, vous savez que le Crisis a beaucoup, c'est une revue qui a beaucoup travaillé sur les questions de sur la théorie du genre. Ça a été avec Éléments, on peut dire que ce sont deux revues qui ont vraiment beaucoup travaillé sur cette question en amont et on continue. Et Crisis donc sort son numéro sexe genre avec des signatures assez prestigieuses, puisque la romancière Nancy Houston. Un entretien avec Jean-Paul Mialet sur le déni des différences sexuelles et ses conséquences sociales. Notre ami David Lépé, lui aussi, s'invite chez Crisis avec un article sur la performance de genre, une parodie sans modèle, et d'autres auteurs comme Yves Christen, bien sûr Thibaut Isabelle, et un entretien avec Agnès Giard. Vous connaissez ?
Non.
C'est la... la personne qui s'occupe, très intéressante d'ailleurs, universitaire, écrivain, qui s'occupe de la sexologie sur à Libération.
Ah bah très bien, y en a qui vont être contents. Mais ça c'est le but de Crisis, c'est l'ouverture. Donc c'est le prochain Crisis que vous pouvez commander. Et alors, que les gens, ce ne sont pas l'équipe d'Éléments qui s'occupe de Crisis. On a déjà beaucoup de travail dans la revue Éléments. C'est Thibaut Isabelle, son rédacteur en chef, qui fait un travail formidable et qui est en train, je crois, va la rendre trimestrielle, maintenant avec une couverture couleur. Et si vous cherchez bien, vous allez trouver un nouveau site Crisis où vous allez pouvoir acheter ce numéro. Voilà, cette émission est terminée. On se retrouve d'ici 4 semaines pour de nouvelles aventures, mais surtout, restez sur Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la nuit de la vieille Europe, dirigé par Patrick Péel, assisté de Pascal Esric, diffusé en direct mardi 15 septembre 2015 de 21h30 à 23h. Il est diffusé en différé jeudi 17 de 21h30 à 23h également, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.